RCF.
Frère Philippe Haine, vous êtes l'auteur donc de ce livre « L'Église face au fanatisme, l'exemple des premiers chrétiens » et vous avez souhaité prendre le temps de vous arrêter sur le sens du mariage dans ces premiers siècles. Qu'est-ce qu'il en est à cette époque ?
Mais j'ai voulu prendre cette question comme j'ai voulu prendre la question « Est-ce que devenir chrétien, c'est devenir fanatique ou exclure les autres ? Est-ce que devenir chrétien, c'est automatiquement renoncer ?» au mariage et donc à l'amour conjugal que ces gens corps.
Est-ce que finalement la vie monastique c'est la seule, en tout cas c'est celle qui serait le plus proche de Dieu, qui conduirait au plus proche de Dieu? C'est ça votre question?
C'est la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une bonne façon de concevoir? Or, moi je suis de plus en plus convaincu, je suis très ému en voyant ça dans l'histoire de l'Église. Il y a des pères de l'Église qui étaient mariés et qui avaient des enfants, et je trouve ça très très beau qu'ils aient pu vivre leur foi entièrement dans un contexte vraiment terriblement engagé dans la vie concrète. D'une certaine manière, pour nous les religieux, on s'évite énormément de problèmes pour s'occuper uniquement de Jésus-Christ. Mais finalement, on peut se demander si parfois il n'y a pas une certaine dérive, une certaine forme d'égoïsme. Non, pour ça, c'est très clair. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas dit à Adam, tu seras dominicain, et à Ève, tu seras dominicaine. Au contraire, aimez-vous, croissez, multipliez. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur même de l'amour conjugal, se développe et se réalise l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous.
L'amour conjugal est fécond et peut l'être pour d'autres aussi.
Oui, certainement, c'est ça. Mais on le voit tout de suite. Hein. Il y a des maisons qui sont rayonnantes d'amour, etc., puis des maisons qui sont repliées sur elles-mêmes. Et on sent qu'il y a des familles qui sont généreuses. Et l'amour est fécond par lui-même. Et donc, un amour conjugal ne peut être que fécond, non seulement au niveau des enfants, et entre eux, mais aussi à l'extérieur.
Et vous-même, frère Philippe, puisque vous êtes dominicain, vous avez choisi cette vie spirituelle. On peut dire que c'est une question de vocation, tout simplement. Certains vont être appelés au mariage, d'autres à la vie religieuse.
Mmh. Oui, de toute façon.
Et l'une n'est pas meilleure que l'autre.
Ah non, tout à fait. C'est pour ça que je suis un peu embarrassé quand on dit « je vous avais choisi », etc. C'est vrai que quand je suis rentré au couvent, je dis « ouais, c'est moi qui ai choisi, je suis maître de mon destin ». Mais finalement, on est toujours appelé. C'est quelqu'un qui m'a appelé à vouloir vivre avec lui de manière tout à fait personnelle, intense, etc. Et ça qui est le plus, je dirais, un certain acte de modestie, d'humilité, de dire simplement la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est d'être aimé et de pouvoir suivre quelqu'un.
Et alors, si on revient à ces premiers chrétiens, se pose très rapidement la question de la chasteté et de la continence dans le mariage. Justement, vous évoquez le fait de tout donner, ce côté exclusif pour Dieu. Comment ça s'est traduit ?
Alors justement, le gros problème dans cette société romaine et grecque de l'époque, c'est le nombre d'adultères et le nombre de divorces. Oui, par exemple, oui. Saint Jérôme disait qu'il y a certaines femmes à Rome qui comptaient les années, non pas d'après le gouvernement ou l'empereur qui était présent, mais d'après leur mari. Parce qu'elles ont été au 5e ou 6e ou 7e mari. Une fois qu'on divorce, c'était vraiment une habitude qu'on pouvait avoir, une responsabilité qui va. Deuxième, au niveau des adultères, il suffit de voir, bon, les pièces de théâtre de l'époque, que ça plote, donc je parle des auteurs latins de l'époque, etc. Donc l'adultère était généralement pratiqué. Bon, notez qu'à la fin du 19e siècle, la pièce de boulevard classique en France est Monsieur, Madame et son amant. On ne sait plus très bien.
Dans le placard.
Voilà. On ne sait plus très bien si l'amant, c'est l'amant de Madame ou parfois l'amant de Monsieur dans certaines situations et ainsi de suite. Non. Alors, le plus important, c'est de rendre la splendeur de l'engagement. De l'engagement de l'un vis-à-vis de l'autre et du respect de l'autre. Je me donne à toi, je te respecte, je ne vais pas commencer à chercher ailleurs, etc. Et de la même façon qu'un homme respecte son corps, ne veut pas se détruire, de la même façon qu'il faut qu'il respecte sa femme et qu'il ne cherche pas à la détruire non plus par son autorité, sa brutalité ou sa violence.
Qu'est-ce qu'il en est de la chasteté ?
Ah, la chasteté, c'est magnifique. Parce que c'est considérer son corps comme un temple de Dieu. Et ça, j'explique ça lorsqu'un enfant est baptisé, il reçoit la même huile qu'on utilise pour consacrer un autel ou bien une église. Et à partir du moment où une table devient un autel ou bien une maison devient une église, on n'en fait plus n'importe quoi. La même façon de mon corps, je n'en fais plus n'importe quoi. Je le respecte. comme je respecte le corps de l'autre, que je ne peux pas le brutaliser, le salir et ainsi de suite.
Alors vous, votre livre s'attache aux dérives. Alors parfois c'est simplement des initiatives personnelles, individuelles. Parfois c'est des mouvements collectifs. Sur le mariage, dans quelle mesure il a pu parfois être dévoyé ou en tout cas on a pu lui donner un sens qui n'était pas celui de l'origine ?
Oh, on voit toutes les perversions sont possibles. On voit la castration volontaire, c'est de la part de certains hommes, etc., et qui était universellement condamnée par les églises, les évêques et la plupart des pères de l'Église.
Vous attachez à Origène.
Oui, mais
Vous essayez de faire le clair sur cette histoire.
Mais oui, on va apprendre. Origène, donc, est mort vers 250.
Donc, c'est un père de l'Église.
Un père de l'Église qui est né en Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. Et d'après une légende qui a été développée 150 ou 200 ans après sa mort, il se serait donc châtré, aurait fait donc le sacrifice de sa virilité. C'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons purement de droit. Parce que donc la politique romaine était la promotion donc de la naissance, une politique nataliste.
Oui, et donc, l'empereur Auguste, par exemple, édicte une loi, vous en parlez, la loi Iulia et Papia, qui pénalise les couples sans descendance.
Même sans descendance. Donc, à plus forte raison, la castration était vraiment punie. Vous me direz, mais c'est une affaire personnelle, personne ne va vérifier ce qui se passe. Dans les maisons, à cette époque-là, il n'y a pas de salle de bain. Où vont les gens pour se laver? Ils vont dans les thermes, les bains publics. Alors, dans les bains publics, les gens ne portent rien. On ne regarde pas, mais on remarque. C'est toujours la même chose. Hein. C'est comme dans la rue, il y a 150 personnes, il y en a une qui est borgne ou bien qui lui manque un doigt à une main, ça se voit tout de suite. Et donc, si Origène avait jamais fait le sacrifice de sa virilité, il serait automatiquement arrêté, jeté en prison. Et tous ses détracteurs, qui étaient nombreux à cette époque-là, se seraient vautrés ainsi dans cette faille pour pouvoir le détruire, le salir au niveau de sa réputation.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que en fait, l'Église a toujours été vigilante à ne pas aller trop loin et que cette question de la continence, elle n'a pas forcément pris la dimension qu'on a pu lui donner.
C'est ce qu'on reproche souvent à l'Église d'être lourde, administrative et tout le temps précautionneuse, etc. Il y a les deux dimensions à l'intérieur de l'Église. Il y a le souffle de l'Esprit, ces missionnaires qui sont partis, c'est Mère Teresa, c'est Sœur Emmanuel, c'est le père des lépreux, que c'est Jean Corps, le père Damien, des gens qui ont été capables de faire des choses qui sont hors normes, comme Saint François et ainsi de suite. Et en même temps, il y a une espèce de devoir de prudence. Mais ce devoir de prudence est motivé par la chose suivante, il ne faut pas de fanatisme destructeur, il ne faut pas de vedettes, il ne faut pas non plus de gens qui détruisent l'unité de l'Église à construction du peuple de Dieu. Un véritable saint, c'est celui qui construit une communauté, c'est pas celui qui dit du mal de son voisin.
Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, à l'image de ces pères de l'Église, est-ce qu'on peut cultiver cet esprit qui nous anime?
Ah, sincèrement, mais en faisant comme eux, en pratiquant d'une certaine manière une vie personnelle de prière ou d'oraison ou d'intimité avec Dieu, lui laisser de la place. Si on n'écoute pas quelqu'un, on ne peut pas être rempli par sa présence. Et deuxièmement, de pouvoir goûter ainsi tous ceux qui autour de nous et avec nous, qui par leur prière et par leur enseignement, nous éclairent sur la façon de voir, de conduire. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de faire des choses audacieuses, comme rentrer au couvent ou bien commencer à s'occuper, aller à l'aumônerie d'un hôpital ou aller soigner des SDF dans la rue ou aller simplement voir des personnes qui sont seules et abandonnées dans les villes, dans les appartements.
Frère Philippe Haine, vous êtes l'auteur de ce livre sur le fanatisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez des traces de fanatisme dans notre société? De fanatisme chrétien ou de fanatisme religieux, de fanatisme peut-être sociétal?
Il y en a partout. Hein. Le fanatisme, comme diraient les dentistes, c'est comme une carie. Hein. Ça commence par un petit quelque chose, puis ça se développe très fort. Et il est à l'intérieur de nous toutes sortes de petites idées qui peuvent devenir très dévastatrices. Non, il faut toujours se poser la question. Quand je lance une idée à l'intérieur du couvent, par exemple, tiens, est-ce qu'on va changer l'heure de la messe? Est-ce qu'on va faire ceci ou cela, etc.? Je me dis, est-ce que ça va permettre de construire la communauté, ou bien c'est simplement mon idée que je veux imposer en disant ça ira mieux. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que je suis là comme bâtisseur d'une communauté chrétienne, ou bien simplement capable de la détruire?
Est-ce que l'Église se préoccupe de dérives éventuelles?
Bon, bien sûr.
Quels peuvent être les critères de discernement d'une dérive, justement? À une certaine époque, on parlait des hérétiques. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot-là. Est-ce que pour autant, on doit continuer à discerner sur ce qui doit rester proche du Christ?
Premier critère, c'est de reconnaître, d'être plein d'admiration devant un Dieu qui, loin de rester tout seul dans son ciel, a voulu partager notre existence, d'être absolument surpris et admiratif devant ce Dieu qui n'est pas solitaire, mais qui connaît une histoire d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas Dieu qui est installé sur son fauteuil et s'est dit « Mon Dieu, c'est vendredi soir, je m'ennuie, je vais créer les hommes, c'est comme ça, ça donne un peu de distraction ». Mais non, il existe déjà à l'intérieur de Dieu une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour est féconde, par définition. Dernier critère que l'on peut ajouter, c'est toujours de savoir si moi j'aime Dieu au point de haïr les autres ou de vouloir les critiquer, ça c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut admettre tout, mais il faut être comme le Christ, comme Mère Thérèse et Sœur Emmanuelle, capable de découvrir dans son voisin et sa voisine l'étincelle divine dans son cœur.
Donc, rester exalté, mais avec mesure, on pourrait dire.
Discernement, oui, mais ça veut dire qu'une mère de famille se lève à 3 heures du matin pour soigner son enfant, elle ne fait pas preuve de réflexion, elle fait faire de dévouement. Un pompier se lance dans une maison qui brûle pour sauver un enfant, il ne fait pas preuve de réflexion, il fait preuve de dévouement. Non, l'amour est fanatique. Moi, je suis fanatique.
Fanatique de quoi, alors?
De miséricorde, de construction et de demande de pardon.
Merci frère Philippe N. Vous êtes dominicain, vous êtes ici à Liège. Vous avez écrit « L'Église face au fanatisme ». C'est l'un de vos nombreux ouvrages publiés chez Salvator. Merci à vous.